Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 3 novembre, nous reviendrons sur la tempête Ciaran qui a quelque peu épargné Lyon malgré de nombreuses interventions de pompiers. 150 mm de pluie ont été enregistrés à la station météo de Bron au mois d'octobre. Pour autant, ces pluies ne sont pas suffisantes pour recharger les nappes phréatiques. Nous verrons pourquoi dans cette édition. La députée écologiste lyonnaise Marie-Charlotte Garin prépare une action la semaine prochaine pour alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de développer l'hébergement d'urgence cet hiver. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. La ville de Lyon intègre le réseau des villes créatives en littérature, une démarche qui vient d'être validée par l'UNESCO. Nous parlerons également de la Rayonne dans ce quart d'heure lyonnais. La nouvelle salle de spectacle de l'Est lyonnais n'a pas choisi ce nom par hasard, un nom inscrit dans l'histoire. La Rayonne, autrefois appelée soie artificielle, n'est plus fabriquée à Villeurbanne. En revanche, il existe tout un patrimoine autour de cette économie florissante du début du XXe siècle. Explication avec Jocelyne Béard de l'association Vive la Taz.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La tempête Ciaran a épargné Lyon, mais des rafales à 106 km/h ont néanmoins été mesurées à Communet. Les pompiers ont géré une vingtaine d'interventions entre minuit et 10h du matin. Des interventions liées essentiellement à des chutes de branches ou d'arbres un peu partout dans le département. 150 mm de pluie ont été enregistrés à la station météo de Bron au mois d'octobre. La normale est de 98 mm. Mais ces pluies sont tombées seulement en 15 jours. Les spécialistes sont unanimes. S'il ne pleut pas durant les 3 prochains mois, ça n'aura servi à rien et les nappes phréatiques ne seront pas reconstituées. La période de recharge des nappes s'étale de novembre à mars. Il est donc encore trop tôt pour tirer un bilan. L'amélioration est surtout constatée au niveau des cours d'eau. Le niveau moyen du Rhône en octobre à Perrache était de 540 m3 par seconde. Le niveau moyen est de 450. Des pics à 1300 m3 seconde ont été observés à deux reprises, les 27 et 31 octobre. La députée écologiste lyonnaise Marie-Charlotte Garin prépare une action dans la nuit du 9 au 10 novembre pour alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de développer l'hébergement d'urgence cet hiver. Selon elle, près de 3000 enfants dorment à la rue en France, près de 200 enfants à Lyon. La députée de la 3e circonscription compte dormir à l'école Masneau jeudi prochain avec les personnes qui y sont mises à l'abri. Objectif alerter sur la gravité de la situation alors que la plupart des services d'hébergement sont saturés. La députée estime que le prochain 49-3 va balayer un amendement adopté en commission des finances à l'Assemblée nationale et visant à créer 10 000 places d'hébergement d'urgence.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
La ville de Lyon intègre le réseau des villes créatives en littérature, une démarche inédite qui vient d'être validée par l'UNESCO après un dépôt de candidature en juin dernier. Cela marque la puissance de notre politique publique culturelle ainsi que la vitalité de la création littéraire et artistique dans notre ville. Se félicite Nathalie Perrin-Gilbert, l'adjointe au maire de Lyon, déléguée à la culture. La ville de Lyon consacre en 2023 près de 135 millions d'euros à la culture, soit 21% du budget municipal. La littérature occupe aujourd'hui le premier poste du budget culture avec 24 millions d'euros alloués à la bibliothèque et au musée de l'imprimerie. La nouvelle salle de Villeurbanne, la Rayonne, remet au goût du jour un terme un peu tombé en désuétude. La Rayonne peut désigner le rayonnement culturel offert par la nouvelle structure, mais dans l'Est lyonnais, ce mot a une autre signification. La Rayonne, autrefois appelée soie artificielle, est un fil textile en viscose qui doit son nom à l'aspect brillant du tissu. Villeurbanne est l'un des premiers sites d'industrialisation de la soie artificielle en France. En 1935, cette société devient la TAZ, textile artificiel du Sud-Est. 2000 personnes travaille à la TAZ, puis environ 1500 personnes jusqu'à la fin des années 60, fermeture en 75. Aujourd'hui, l'association Vive la TAZ milite pour la reconnaissance de l'ensemble industriel remarquable QC-TAZ comme site patrimonial remarquable. Un quartier à découvrir. Nous avons rencontré Jocelyne Béard de l'association Vive la TAZ.
Cette usine a été créée par l'Empire Gilet, le plus gros employeur de Lyon au début du XXe siècle, qui avait décidé à l'époque d'investir des moyens exceptionnels dans la fabrication de soie artificielle. Cette soie qui est devenue ensuite la Rayonne, le nouveau nom autorisé, et qui était à la base d'un incroyable essor et d'une multitude d'usines, y compris par exemple à côté de Vanvelin sur Décines à la même époque. Pour Gilet, qui était un très très important groupe industriel, industrielle pour de l'époque. C'était aussi un moyen de faire reconnaître sa place dans la ville et de faire valoir sa puissance et son ambition industrielle.
Qu'on comprenne bien, ce n'est pas la soie des canuts de la Croix-Rousse, ça n'a rien à voir.
En effet, il faut bien séparer la soie artificielle. Ce nom a été interdit en 1934 à l'initiative du maire de Lyon, Herriot, qui a obtenu du Parlement qu'il interdise l'utilisation du mot de soie artificielle au profit du nom de la rayonne. Donc la rayonne, c'est un textile, un fil artificiel qui ensuite a été développé de toutes sortes de manières, y compris en particulier par la maison Brochet, qui a développé dans les années 60 par exemple la fibre de carbone. Cet investissement des gilets a préfiguré une industrie qui se développe encore aujourd'hui dans ce domaine des textiles techniques. Sachant que pour l'usine Taz par exemple, des fils techniques, ce sont par exemple les fils pneus qui étaient produits pour Michelin, un fil à haute ténacité qui a été ensuite produit d'autres manières dans d'autres usines, mais qui reste un élément très très important de nombreuses industries. L'industrie de la santé, l'industrie de l'aéronautique, l'architecture, l'agriculture. En fait, ces textiles techniques sont maintenant présents pratiquement dans toutes les filières industrielles.
Donc Villeurbanne est un petit peu précurseur, on peut dire ça comme ça ?
On peut dire que les gilets de ce point de vue-là ont été parmi ceux qui ont misé sur ces nouvelles techniques et ces nouveaux fils.
Alors, autour de cette usine, il y avait tout un quartier, finalement, qui vivait et qui existe encore aujourd'hui. Ça s'appelle la cité Taz.
Cité Taz sont des cités jardins constituées d'un côté de pavillons. Il y a 70 pavillons, ce qui représente à peu près 300 logements, dans une cité dont les caractéristiques sont assez intéressantes, puisqu'en fait, il ne s'agit pas de logements en alignement, mais plutôt d'une sorte de village qui est sillonné de voies sinueuses et qui donc forme un ensemble vraiment original en termes de cité-jardin. Et puis les grandes cités Taz qui sont elles-mêmes constituées de trois types de bâtiments de quatre étages qui disposaient tous de jardins ouvriers à proximité. C'est un peu le trait commun de cet ensemble. Il fallait que l'usine soit totalement autonome. Elle était en pleine campagne. Il fallait qu'elle soit isolée, parce qu'il s'agissait de manipuler des produits qui sont potentiellement explosifs, et en tous les cas dangereux et polluants, et installé comme ça à la campagne, mais quand même proche de la ville, desservi par un chemin de fer à proximité d'une usine hydraulique très puissante, garantissait à la fois une bonne desserte, une bonne alimentation, une eau abondante et potentiellement donc l'accès à une main d'œuvre de proximité. Dans la réalité, cette usine a toujours fonctionné sur très très largement une main d'œuvre étrangère que parfois l'usine est allée chercher très loin.
Sur ces maisons, on peut dire qu'elles ont une architecture quand même très particulière.
Oui, je pense qu'il y a vraiment eu au départ une volonté de marquer les esprits par la qualité de l'opération. Peut-être l'usine de Cusset qui déjà dans cet esprit-là avait misé sur un aspect assez monumental, assez recherché. Peut-être que l'usine de Cusset a inspiré les gilets quand ils ont décidé des aménagements, quand ils ont choisi l'architecte qui a dessiné cet ensemble.
Tout cela est très proche de l'usine hydroélectrique de Cusset, hein, le fameux barrage qui est, je crois, le premier en France à avoir été créé.
Au fil de l'eau.
Pourquoi il y a une connivence entre ces deux parties?
C'est vrai que c'est deux usines totalement différentes. D'un côté, c'est de l'hydroélectricité, de l'autre côté, c'est du fil. Ce qu'elles ont en commun, c'est d'abord ceux qui ont financé ces usines, c'est-à-dire dans le premier cas, l'usine de Cusset, ce sont les soyeux lyonnais qui ont investi dans cette opération privée à l'époque, d'investissement sur une énergie qui n'était pas du tout maîtrisée à l'époque, ou du moins qui faisait encore très peur. Il fallait donc que l'usine soit belle. Et puis l'usine Taz, qui a été plutôt, elle, portée par les gilets, dont la fortune est originaire, eux aussi, de la soierie, puisqu'en fait, Gilet a fait fortune en développant une soie noir, un procédé de teinture noire qui était d'une qualité telle qu'il a obtenu rapidement le monopole de cette cette teinture, en particulier avec le plus grand soyeux de l'époque, c'est-à-dire Bonnet.
Est-ce que tout ça aujourd'hui est assuré d'être pérennisé dans l'histoire? Est-ce que ça est classé? Comment ça se passe?
Pour ce qui concerne la grande façade, elle est inscrite.
De l'usine donc.
De l'usine Taz. Par contre, l'usine de QC n'est pas du tout classée. Les petites et les grandes cités ne sont pas non plus. Elles sont un peu protégées par la proximité du bâtiment classé. Ce que nous proposons, c'est que, à l'exemple des gratte-ciel à Villeurbanne, cet ensemble industriel que nous jugeons remarquable devienne un site patrimonial remarquable. C'est l'appellation qui est donnée à ces classements qui sont de niveau national et qui sont pris par une commission nationale. Ça suppose naturellement que les collectivités locales, les propriétaires privés, l'ensemble des acteurs de ce site patrimonial très complexe et très varié s'entendent et travaillent ensemble dans cette perspective.
Est-ce qu'on peut visiter aujourd'hui, que ce soit la cité Taz, le barrage ou le village ?
Alors, il y a plusieurs façons de visiter. D'abord, il y a un site internet très riche en documents actuels avec des visites virtuelles sur les différents sites de cet ensemble et toute une série de documents d'époque, de documents d'archives qui sont incrustés dans les visites virtuelles ou dans les explications historiques qui sont développées dans le site. Il y a aussi une balade audio guidée qui est sur Easy Travel, qui est gratuite et qui permet à tout un chacun de se promener dans le quartier avec des explications portant sur les différents points remarquables du quartier. Et il y a aussi des visites guidées qui sont un peu plus rares et qui sont aussi proposées à l'occasion des grands événements comme les Journées du patrimoine ou pour des groupes constitués, cela dans la mesure du possible avec un guide du patrimoine qui connaît absolument tout de cette histoire.
Pour en savoir plus sur la Rayonne et les usines Taz, rendez-vous sur le site du RIS ou sur le site Vive la Taz. OL Metz, ce week-end, Corentin Tolisso sera encore privé de match ce dimanche lors de la venue de Metz, puisqu'il est suspendu. Par ailleurs, la Ligue de football professionnel a rappelé que les joueurs suspendus lors du match de la 10e journée entre l'OM et l'OL, match annulé, purgeront leur suspension ce week-end. Notez que le match OM-OL sera finalement joué le 6 décembre. 7000 participants vont se lancer samedi soir dans le Lyon Urban Trail by Night. Le LUT pourrait battre un record de participation comme le Run in Lyon il y a deux semaines. Trois formats 26 km et 800 mètres de dénivelé, 15 km avec 550 mètres de dénivelé et un 8 km avec 300 mètres de dénivelé, idéal donc pour s'initier. L'arrivée sera jugée au pied de la scène du théâtre de Fourvière. Une idée de sortie pour ce week-end, la 29e édition du Salon du Cheval Équite à Lyon à Eurexpo. Près de 200 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche. On peut trouver des vêtements pour les cavaliers, du soin pour les animaux, des matériaux pour les écuries ou encore des formations pour les professionnels, sans oublier un espace enfant. La Bretagne, la Provence ou encore la Nouvelle-Aquitaine tiennent des stands pour vanter leurs paysages, leurs chemins et les possibilités d'accueil pour le tourisme équestre. Le village des start-up spécialisé dans les activités équestres met en avant diverses entreprises en lien avec le cheval, des start-up spécialisées dans les compléments alimentaires fabriqués à partir d'extraits végétaux, des entreprises qui développent des vêtements innovants ou des bougies aux parfums inspirés du monde du cheval. Bref, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Rendez-vous donc à Eurexpo jusqu'à dimanche pour Équite à Lyon. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement lundi pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.